Vous écoutez
RMC.
Le rendez-vous des stars. Alors, qui a dégainé la plus belle robe sur le tapis rouge cette année? C'est Longoria, la plus glamour des Desperate Housewives.
C'est le monde des réseaux sociaux. J'ai cherché de faire, à ma opinion, du buzz.
Et pour être à la hauteur, Longoria ne lésine pas sur les moyens.
Il a tout son backroom qu'il a derrière lui.
Régime draconien à base de thé vert, séance de fitness intensive avec coach personnel.
Je sais pas, moi je pense que t'as...
À 37 ans, la bombe latino s'astreint à une discipline de fer.
Ça fait 10 ans que tout est réglé comme du papier millimétré.
On doit être sincère avec tout le monde.
Je sais pas si mes copains au Serrois ou pour moi c'est le top.
J'ai l'impression qu'il y a des drôles de backroom à Marseille.
Ouais.
Hein,
oui.
On est toujours en direct de la NBA House. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. On va débattre de l'OM avec un mercato qui avance au ralenti. Alors pourtant, Vincent, le mercato, c'est toujours la période où Pablo Longoria brille. Hein. Là où il nous a habitués à nous révéler ses compétences.
Avant ce fameux plan B.
Alors, entre le début de saison qui a été compliqué et ses derniers mercato critiqués, est-ce que Pablo Longoria est en fin de cycle à l'OM? Supporter marseillais, votre avis au 32-16. Tout de suite, Pablo Longoria a présenté sa recrue hivernale, Jean Onana, tout à l'heure. Florent Germain était sur place. Salut Flo.
Salut Pierrot. Salut les amis.
Salut Flo.
Est-ce qu'il y aura d'autres arrivées? On peut y croire à Marseille?
Pas forcément énormément, non. Mais c'est vrai qu'il y a déjà cette signature, Jean Onana, 24 ans, prêté par Beşiktaş. C'est un ex de Lille, Bordeaux et Lens, donc il connaît bien la Ligue 1, c'est déjà un avantage. C'est un milieu de terrain, un secteur un peu sinistré, donc il est là pas forcément pour faire rêver, c'est vrai, mais au moins il fait le nombre. Rongier est blessé, l'OM perd 7 joueurs pendant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est beaucoup, dont des milieux comme Harit, Unai et Gueye. Et pourtant, écoutez, ça peut faire bizarre, mais il le confirme, Pablo Longoria, le président, l'OM, oui, va rester calme pendant ce mercato.
Les mercato de janvier, c'est pas un mercato facile, c'est pas un mercato qu'on aime, à dire la vérité. Avec un changement de coach pendant la saison, c'est vrai que la planification, ça change, ça oblige à changer un peu et à mélanger un peu tous les différents pièces qu'on a. Et on travaille surtout maintenant sur la priorité, sur les côtés roches. De l'effectif.
Voilà, donc quelques ajustements et pas de folie. Le latéral gauche, on en parle depuis quelques semaines, rappelez-vous, c'est la priorité de Pablo Longoria et de l'effectif parce qu'il faut un numéro 2 derrière Renan Lodi. L'une des pistes serait un régal pour la prononciation de Denis ou de Vincent, c'est Josh Doig, écossais de l'Hellas Vérone. Signe, on aura l'occasion d'y revenir. Il est pas mal, je sais que tu le connais et qu'on en parlait il y a quelques temps ensemble.
Est-ce qu'ils vont le choper, je me suis dit. Ça, bon si coucher. Le shop, il est pas mal à voir.
Ça
s'appelle
comment, Vincent?
Josh Doig.
Exactement. Donc, mercato simple et efficace. On rappelle que les finances de l'OM sont quand même surveillées par la DNCG, par le contrôle de gestion. Qu'il y a une volonté, c'est pas non plus de trop recruter pendant la CAN, parce que sinon, on aura un effectif surchargé après la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, en gros, et on le comprend très bien, écoutez, avec Gennaro Gattuso, il faut tenir un mois et après, on verra. Écoutez l'entraîneur italien, on va faire la traduction en direct, c'était il y a quelques minutes.
L'obiettivo più grande è quello di non perdere i giocatori, di limitare.
L'objectif le plus important c'est déjà de ne pas perdre de joueurs.
E l'obiettivo è questo.
Voilà, c'est ça, il faut limiter les dégâts. L'effectif est restreint, il faut se concentrer sur chaque match là pendant ce mois particulier. Et voilà, réussir à limiter la casse avant que les joueurs reviennent de la Coupe d'Afrique des Nations. Après on fera le point, après on verra quand on aura tout le monde à disposition. Voilà, donc c'est clair, Gennaro Gattuso, il s'apprête à souffrir pendant un mois, même si il peut y avoir des mouvements surprises, on ne sait jamais dans cette fin de mercato. En tout cas, Longoria a reconnu que Pape Gueye est invité à trouver un autre club. Il a refusé 2 prolongations de contrat, il est en fin de contrat en juin, mais il a promis, allez savoir si c'est vrai, en tout cas il a promis aujourd'hui qu'il comptait sur Vitinha et sur Hasdin Unai.
Florent Germain en direct de Marseille. La question du débat, Vincent.
Oui.
Longoria, est-ce la fin du cycle?
Non, on peut pas juger sur le mercato d'hiver. Enfin, tout le monde
c'est
le
pas,
sait.
C'est pas juste sur le mercato d'hiver.
Non, je pense qu'il y a peut-être une usure. Et puis peut-être qu'il ne fait pas les coups qu'il a eu fait par le passé. Maintenant, il y a une usure. On va voir, c'est surtout là. C'est la transition. D'abord, est-ce qu'il va rester? C'est là. Peut-être que, quand on parle d'usure, ça veut dire qu'il y a quand même une suspicion, peut-être ça fait 3, 4, 5 ans qu'il y est maintenant, non? Ça fait quoi? 4 ans?
Moins.
3 ans?
Non, puisqu'il est arrivé comme directeur.
2 ans et demi de président et tu rajoutes un an et demi de directeur sportif.
4 ans. Bon, écoute, écoute, non, moi je crois pas que ce soit une usure. Après, tu prends les mecs que tu peux prendre sur le marché. Ce que je veux te dire, c'est que financièrement, d'abord, est-ce qu'il y a des joueurs sur le marché énormément qui te conviennent? C'est pas plutôt maladroit de dire on va tenir un mois et puis on va se serrer. Et après, il y a tous les mecs qui rentrent de la canne, de pas surcharger l'effectif avec des mecs qui sont moyennas, sans mériter, et à qui tu ne pourras plus offrir du temps de jeu parce que les mecs seront revenus de la canne. Donc non, pour le bien-être du groupe, je trouve que c'est plutôt stratégique. Je crois pas qu'il soit en fin de, parcours avec l'OM. Non, je ne crois pas.
Plus ambitieux. Et
oui,
plus
mais après tu comprends l'utopie de dire on recrute. Après, il faut prendre le momentum, c'est-à-dire l'économie, ce que tu fais. Moi, je préfère un président qui s'adapte et qui des fois est moins bon parce qu'il n'a pas les sous, peut-être parce que il y a des mecs qui vont rentrer parce que c'est stratégique, et plutôt que de dire ouais, mais là, il est moins ambitieux parce qu'il n'a pas recruté. Mais non, ça correspond à un certain moment, et peut-être que c'est plutôt judicieux de ne pas recruter à ce moment-là. Alors vous allez me dire ouais, non, mais on n'est pas sûr d'être troisième. Mais oui, mais ça fait partie du foot.
On le sait pas avant.
Et crois-moi, moi j'aime bien les mecs qui naviguent pas avec les utopies, qui se rendent compte du marché et qui voient le présent, là, le momentum.
Voilà.
Mais non, mais c'est vrai, les gars. C'est pas parce qu'ils recrutent moins. D'abord, il y a moins de mecs. Et puis les sous, oh, ça tombe d'où les sous? Les sous, ils tombent d'où? Les mecs, ils vont rentrer. Il a quand même un effectif qui est quand même assez épais, parce que même les pompes, à la fin du mois, les pompes, tu les casques, hein, tu prends pas.
Les mecs,
tu leur dis pas, non, vous êtes, non, mais vous recrutez, vous êtes nuls, on vous paye pas. Non, tu payes tout le monde. Donc, à un certain moment, moi, des mecs qui font des trous, il y en a plus que ceux qui te ramènent de l'oseille.
Sachant que la plupart des débats, Pierrot, qu'on a fait sur Pablo Longoria, très rapidement, c'était plutôt de dire qu'il y avait trop de mouvements avec lui, que c'était un peu n'importe quoi. Trop de changements, et là pour une fois il dit je veux un peu de continuité. Alors c'est peut-être par la force des choses, mais au moins il change un petit peu là-dessus.
Il prend ses responsabilités, surtout de président.
C'est justement l'argument que j'allais mettre en avant, c'est-à-dire on ne peut pas reprocher à un président de trop recruter, voire de trop vendre et de faire trop bouger son effectif avec des difficultés à travailler sur le long terme, voire dans la continuité. Et à un moment donné, quand ça bouge un peu moins, dire c'est bizarre, ça bouge pas. Donc là j'avoue, alors j'ai bien compris qu'on fait pas ce débat là par rapport à cette intersaison, cette trêve hivernale et à ce moment là mais en réalité le débat, et je pense qu'on le fera à la fin de l'année, la saison est très très particulière pour Pablo Longoria, puisqu'il fait un choix fort en début de saison en faisant venir un coach qui est un ami et il sait qu'il prend des risques, et malheureusement ça se passe mal. Alors ça se passe plus que mal parce que son départ arrive à un moment un peu particulier avec cette fameuse réunion qui a touché beaucoup de monde, que ce soit du côté des dirigeants.
Il est parti en courant.
Plus j'ai vu qu'il s'était fait sortir par une petite équipe en Coupe d'Espagne.
Ah, t'es content.
Je le surveille particulièrement celui-là.
Il a serré le point.
Écoute-moi, lui, Emmanuel Valls, écoute-moi, je les surveille les deux. Et donc, du coup, on peut penser qu'il a été touché psychologiquement, on le sait, peut-être même dans son amour propre, peut-être même dans ses affinités, puisque voir son ami partir, ça n'a pas dû être agréable pour lui. Donc, c'est pour ça que. Il a un nouveau coach qui arrive, qui a peut-être des demandes, qui se satisfait de cet effectif, qui n'a pas envie de se retrouver avec 35 mecs après la CAN, et donc il n'y a pas de demande particulière. Bon, ça, c'est pas une marque de fin de cycle. Par contre, j'ai hâte de voir la fin de la saison pour voir si on a toujours le même président, parce que même s'il nous dit. Et s'il dit, quand on pose des questions, parce que moi, chaque fois que j'ai eu l'occasion de le croiser, soit parce que on l'a reçu à la radio, soit parce qu'il était dans une réunion à Marseille où je me trouvais, je lui ai posé la question devant du monde, en savoir s'il était encore là. Il dit oui, mais c'est pas un oui. Il a été reçu par le MEDEF local, les chefs d'entreprise, donc avec qui il a de bons rapports et qui s'intéresse sur la vie de l'OM, et la question lui a été posée. Donc Flo, je sais pas ce que tu as passé à ce niveau là mais je mettrai pas l'héritage de mes enfants sur le coup, quoi, si tu veux.
Le MEDEF
9. Oui, non, mais il y a beaucoup de.
C'est le Pôle emploi à Marseille.
Flo, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de rumeurs là-dessus. Et d'ailleurs, juste avant Noël, rappelez-vous, lors de sa conférence de presse de bilan, on lui avait posé la question de savoir s'il allait partir en fin de saison. Enfin, on lui avait demandé cash. Hein. Lui a promis à chaque fois, et tu le dis hein, publiquement, lui, il dit qu'il s'engage sur la durée, mais après, voilà, ça n'engage que sa promesse. Et effectivement.
Et que ceux qui la croient.
Et voilà, et ceux qui.
Il peut être sollicité aussi. Hein.
Oui, peut-être.
Il a répondu qu'il avait retrouvé l'énergie nécessaire.
Exactement. Ouais. Oui, mais il a
dit sa dernière expérience dans le foot de président, ce serait à l'OM, hein, il a dit.
Oui, mais de président, mais il y a d'autres métiers dans le foot. Hein.
Ouais. Moi, je trouve que qu'il est très costaud dans un contexte marseillais, et je trouve qu'il tient bien la baraque. Il apporte une certaine stabilité. Après, on peut lui reprocher certaines choses, mais quand même, je trouve qu'il fait preuve de consistance, quoi.
Après, non, je sais pas. Donc, pas du tout fin de cycle, du coup.
Mais j'espère pas pour Marseille, parce qu'après, tu le changes par qui?
Je sais pas qui tu rends.
Mais oui, après, tu.
C'est compliqué. Le problème, un bon président. Moi, j'aime pas mon carrière.
Mais moi, je pense qu'il c'est un bon président. Après,
le problème, c'est pas le président, l'OM. Le problème, c'est pas le président, l'OM. C'est l'actionnaire qui met des sous, hein.
Ah oui,
mais c'est. Oui, ma foi. C'est le nerf de la guerre, quand même, aujourd'hui.
Après, il a comme. Si tu parles de sous, il a un problème, c'est qu'il a jamais vendu.
C'est un mauvais vendeur.
Ça c'est important. Hein.
C'est un mauvais vendeur. Maintenant, moi, je rejoins les autres. De la parler de fin de cycle, moi, j'ai du mal à y croire. Alors, sur ce mercato-là, il n'a pas envie de bouger. Est-ce que c'est parce qu'il y a des contraintes d'oseille ou parce qu'il n'a pas envie de rajouter des joueurs? Alors, je sais qu'à Marseille, il y a des envies de nouveaux joueurs offensifs parce que pas content de Sarr, parce que pas content de Ndiaye, parce que pas content de Correa. Mais le problème, c'est que ces mecs-là, s'ils ne peuvent pas partir et que tu en ramènes un ou deux, tu te retrouves après, au bout du compte, à 8 mecs à jouer en attaque. Et après, ça cause plus de problèmes qu'autre chose. Donc moi je trouve que l'effectif il n'est pas si mauvais que ça pour réaliser les objectifs d'être quatrième ou troisième voire deuxième sur un malentendu. Moi Pablo Longoria, je suis pas supporter de l'OM, mais pour les Marseillais j'ai envie qu'il reste le plus longtemps possible parce que c'est un mec qui maîtrise le football, qui maîtrise peut-être de plus en plus le contexte marseillais malgré l'affaire qu'il y a eu au début de saison. Il est bien impliqué dans la vie marseillaise, il connaît le football, c'est un bon dirigeant. C'est compliqué hein.
Mais trois fois qu'il connaît bien le football, tu vois que sur les doigts t'as 12 doigts à la même main.
Il maîtrise le football et il connaît le football.
Deux choses différentes. La connaissance et la maîtrise.
Non, mais après, est-ce qu'il aura la force de continuer l'énergie? Après, attention, à la fin de saison,
il va falloir. Mais le bilan, il est bon, le bilan. Oui, s'il n'y a pas de Ligue des Champions à la fin de saison, est-ce qu'il réussit?
La vraie question, c'est s'il est usé, mais ça, on ne peut pas le savoir. Le problème, on ne peut pas le savoir. Ça, c'est vraiment l'intimité. Parce que lui, il va te faire une apparence que tout va bien. D'ailleurs, il répond à Eric, il lui dit Ouais. Eric te dit Je ne le sens pas vraiment, quoi. Tu vois,
Eric, est-ce que tu penses que c'est peut-être lié à la Ligue des Champions?
Non, mais attention, tu as raison aussi que si deux ans de suite, tu ne chopes pas la Ligue des Champions, il y aura un bilan de fait sur son. Ça fera trois ans de présidence. Tu pourras faire déjà un bilan.
Pour l'OM, c'est pas bon.
Un bilan des résultats sportifs et un bilan des arrivées, des départs, de la balance financière. Bien sûr que tu as un bilan à faire, mais c'est pas le moment, quoi. Voilà.
Pour moi, c'est pas sportif, c'est affectif.
Fin de cycle à l'OM.
Ah oui.
Oui, Flo.
Non, pour moi, c'est pas sportif, c'est plutôt affectif, puisque vous posez en fait la question de l'avenir de Pablo Longoria. Je pense que s'il y a une réflexion, c'est pas sportif, c'est plus lié au fait que il a mal vécu malgré tout certains épisodes, la réunion et autres, les départs de Javier Ribalta, sûrement
dont
on parle moins, Pedro Iriondo, l'ancien directeur général, qui est également sur le départ. Donc il y a tout un contexte qui peut amener à se poser cette question. C'est assez logique.
Les supporters marseillais sont là au 32-16. Nous accueillons John. Bonjour John.
John.
Salut John. Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe et
John. Bonjour Eric. Hello my friend.
Et John, salut.
Surtout Eric.
Et oui, il aime le beau jeu au Kikadi, John. Et il a le droit, non?
Surtout Eric.
Les envolées lyriques.
Oui. Alors, est-ce que Pablo Longoria, ton président, est en fin de cycle selon toi?
Alors selon moi, j'ai noté pas mal de choses. Oui, il serait en fin de cycle, notamment parce que Longoria est arrivé donc été 2020. Et c'est quand même quelqu'un qui a fait venir trois équipes quasiment entières, six coachs en trois ans, donc aucune stabilité. Les seuls bons joueurs, ils partent pour des paquets de figues, que ce soit Gerson, que ce soit Alvaro,
Gerson
par exemple, que
le contrat
a rompu.
Gerson, c'est un bon joueur.
Gerson, c'était quand même mieux que ce qu'on a aujourd'hui, que Unai, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Il n'y a pas eu dommage, notamment à Mandanda ou à Payet. Donc ça, c'est un peu dommageable. Il prolonge à ma vie le seul arrière-gauche qui était aussi mauvais que Patrick Evra. Il nous achète Cuisance, Ncham et Vitinha. On a deux fois la DNCG aux fesses. Il nous prend Balerdi pour 8 millions d'euros à Dortmund, alors que dès qu'il est titulaire, moi j'ai peur à chaque fois que de perdre.
Et c'est surtout, bilan vu comme ça, ouais.
Et c'est surtout sur les trois derniers mercato, il nous prend, je n'ai rien, mais il nous prend 8 canistes. Donc après, derrière, il nous dit à chaque fois qu'il a une vision du football en disant j'anticipe. Et là, cet été, il nous prend encore deux canistes. Et derrière, ben, pourtant, on lui a dit attention, on a la CAN en janvier. Et regardez, aujourd'hui, on n'a pas d'équipe.
Je vais laisser répondre Eric, mais bon, c'est facile de regarder que le bilan négatif. Tu mets de côté tout ce qu'il a bien fait aussi, Pablo Longoria, John.
Sanchez, tout ça, quand même.
On était à moins 97 et maintenant, on est en positif. Sauf que derrière, on a CBC qui nous donne 90 millions. On a deux participations en Ligue des Champions. Il y a aussi l'enquête de l'UFA avec Tongia et Ake vis-à-vis de la Juve. Donc il a fait des choses bien, mais pour moi j'ai l'impression que
le nom de Marseille.
Bah écoute,
c'est un métier,
il a fait son bilan, John.
Il connaît en tout cas.
Merci beaucoup, John. En tout cas, on a bien
c'est
compris
John,
ta position sur le cas Longoria. Dans un instant, nous allons revenir au basket. On remercie Florent Germain en direct de Marseille. Nadir Ifi, le meilleur de jeu du Paris Basketball. Nadir Ifi dans le Super Moscato Show. À tout de suite.
Qui vient avec sa chaîne. Allez, on arrive tout de suite dans le Super Moscato Show.